pourquoi la plupart des joueurs de didgeridoo n'écoutent jamais du didgeridoo et pourquoi toute la population mondiale se contrefout du didgeridoo. On va voir ça aujourd'hui. Salut et bienvenue sur les podcasts de Wacademy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Wacademy, une école de didgeridoo en ligne. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que c'est des réactions de gens qui ont écouté le podcast la semaine dernière qui m'a donné envie de faire ce podcast sur ce thème-là. Alors déjà, j'aimerais m'excuser parce que j'ai fait des erreurs sur le podcast de la semaine dernière. J'ai parlé d'Austral. Apparemment, c'est plus un joueur de Oud, c'est un joueur de Saz qui joue. Donc voilà, mes sources étaient mauvaises et ça, je m'en excuse, mea culpa. J'ai eu en fait deux messages privés, donc très sympa de leur part parce que ça n'a pas été commenté en public, mais voilà. Là, j'annonce tout haut, vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez en public, il n'y a pas de problème. En gros, les messages privés me disaient « Fais gaffe quand tu parles d'un festival où t'as peu été présent, parce que déjà, t'as fait des erreurs donc avec Austral, et puis ça ne le fait pas, il manque comme un truc. » Donc déjà, par rapport à l'épisode de la semaine dernière, c'est vrai que j'étais un peu claqué, et c'est vrai que aussi, je me suis dit que ce n'était pas mon meilleur épisode de podcast que j'avais sorti. Donc, on me l'a rappelé très gentiment en message privé. Mais pour expliquer un peu ma démarche de la semaine dernière, c'était pas spécialement pour faire un reportage sur Nomadige, c'était vraiment pour faire découvrir. Nomadige était comme un prétexte pour moi pour faire découvrir cet artiste dont j'avais pas encore parlé dans les podcasts et j'ai cru que ça avait été clair, mais apparemment pas trop. Bon, bref, voilà, je m'excuse, c'est le souci de travailler seul et de pas avoir d'équipe. Voilà, bon, ça c'était le mea culpa de la semaine dernière, mais surtout ça m'a fait réfléchir. Au début, ça a été un peu dur d'accepter la critique, comme toutes les critiques, c'est toujours un peu dur d'encaisser. Et en fait, je me suis dit, ouais, alors d'accord, j'étais pas à Nomadige la semaine dernière, ou très peu, j'étais très peu présent, quoi, il y a deux semaines, je me mélange un peu dans les dates. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Alors, outre le fait que j'avais un enterrement de vie de jeune fille d'une pote qui se marie, oui, enterrement de vie de jeune fille, je suis un garçon, j'ai été invité, mais c'est un peu au-delà des conventions. Donc voilà, j'avais ça qui était prévu et que j'ai dû m'absenter. Il y a aussi quelque chose de très évident, c'est que j'en ai marre des festivals de didgeridoo. Je m'ennuie grave dans les festivals de didgeridoo. J'en ai fait le tour aussi, ça fait 18 ans que je fais des festivals chaque année, vraiment centrés sur le didgeridoo, que je donne beaucoup de stages, ça les stages ça me plaît parce qu'on est en petit comité. Donc pour toutes ces raisons, j'en ai marre des festivals de didgeridoo, mais surtout il y en a une au-delà de tout, qui je pense me ferait quand même, si elle n'était pas là, j'aimerais quand même les festivals de didge actuels, c'est qu'en fait, je trouve qu'on s'ennuie, quoi, je vais parler pour moi, je m'ennuie beaucoup quand j'écoute du didgeridoo. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, et je vais vous présenter un peu dans ce podcast comment est-ce que je perçois le didgeridoo actuel, comment je perçois son évolution. En toute honnêteté, je vais vous parler un peu franco sur la scène actuelle du didgeridoo. Alors, avant de commencer de développer toute mon argumentation, je tiens quand même à dire que je suis loin d'être le seul par rapport à ce constat et que parmi tous les joueurs de didgeridoo et joueuses de didgeridoo qui soient pros ou en tout cas ou passionnés de didgeridoo, il n'y en a pas énorme qui écoutent du didgeridoo. Donc là, c'est quand même une petite sonnette d'alarme. Si les joueurs et joueuses eux-mêmes écoutent peu de didgeridoo, là, il y a quand même un souci. On ne va pas aller demander à un public plus large d'écouter à fond de didgeridoo et donc de venir en festival de didgeridoo. Pourquoi, en fait, peu de monde écoute du didgeridoo? On pourrait résumer ça comme ça. Pourquoi tout le monde s'en fout, en fait, du didgeridoo? Et ça se voit avec les festivals de DJ qu'il y a un peu partout. Nomadige a été déficitaire cette année. D'ailleurs, il y a une cagnotte, si vous voulez participer, je le mettrai sous le lien du podcast pour aider Nomadige. Il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même un peu de personnes, ce qui était déjà bien pour un festival de didgeridoo. Quand on va en Suisse, ou quand on va en Pologne, ou en Italie, à Forlimpopoli, où il y a un festival qui dure depuis au moins 15 ans maintenant, ou au moins 12 ans, on voit que ça attire peu de monde, parce qu'en fait, les gens ne reviennent pas toujours. Alors, sauf à Nomadige, qui a un côté qui est assez sympa et qui arrive à fédérer un peu plus et qui touche vraiment, vraiment les joueurs de didgeridoo, qui fait qu'ils se déplacent. Mais au niveau du grand public, il n'y a pas, tout le monde s'en fout. Et donc, quand les joueurs de didgeridoo généralement écoutent du didge, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a des exceptions. Je vais pas parler pour tout le monde. J'ai pas la prétention de représenter tout le monde du tout. Je vous partage mon expérience et les échanges que j'ai eus avec pas mal de monde. Mais quand en fait les personnes vont écouter du didge, c'est pour écouter de la technique. C'est-à-dire que ça va être ah ouais purée, son jeu il est vraiment impressionnant. J'arrive pas à comprendre comment il fait telle ou telle technique. Et là, on va réécouter ce que j'ai fait beaucoup, mais comme tous les passionnés didgeridoo, on écoute un joueur à fond pour essayer de décortiquer sa technique et s'en imprégner. Mais généralement, passé ce passage-là, à moins qu'on ait un coup de cœur avec le style du joueur, on réécoute rarement l'album ou on écoute rarement les CD. Les CD, ça fait un peu vintage comme ça, mais voilà, peu importe la musique du joueur ou de la joueuse de didgeridoo ou du groupe. Il y a une raison qui est assez simple, c'est que ça manque de musicalité. Je parle vraiment en mon nom, hein, mais la musicalité actuelle du didgeridoo, ben c'est pas grand chose, et c'est pour ça que la semaine dernière j'ai pas entendu Austral sur scène. Mais par contre, le morceau qu'il y a sur internet, il y a des bons musiciens, il y a une vraie musicalité, et c'est très agréable à écouter parce que ben, c'est un vrai morceau quoi. Il y a une vraie rythmique, une mélodie, tout ça. On va reparler un peu de l'équilibre rythme-mélodie, comme si on arrivait à un point où il y a une évolution qui doit se faire et pour le moment qui se fait pas. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un manque de musicalité au niveau du didgeridoo? Alors j'ai essayé de réfléchir à la question. Le premier point, c'est que le didgeridoo contemporain, c'est un instrument qui est très jeune. 20 ans, 30 ans, 40 ans max, mais ça a commencé à vraiment booster depuis le début des années 2000. Donc voilà, on est en 2019, ça fait 19 ans, on peut dire 25 ans, allez, que ça bouge un peu dans le didgeridoo, mais c'est vraiment très très jeune pour un instrument contemporain. Bien sûr, il y a le traditionnel, mais ça je le mets à part parce que c'est lié à la culture des aborigènes d'Australie, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser dans la musique actuelle, et ça nous parle pas forcément des joueurs actuels qui essayent de mélanger avec la musique occidentale, même s'il y a des groupes traditionnels. J'ai fait tout un petit article là-dessus que je vous mettrai aussi en lien. Donc voilà, l'histoire du didgeridoo contemporain est très jeune. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on est quasiment tous autodidactes dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on est quasiment tous, et je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes à peu près dans le même cas, parce que c'est une grosse majorité des joueuses et joueurs de didgeridoo, c'est qu'on a commencé la musique avec le didgeridoo. Je vais parler pour moi. Moi, je me sentais pas musicien. J'avais 18 ans et je me disais, purée, j'aimerais bien faire de la musique. Et je voyais mes potes violonistes, bassistes, guitaristes, batteurs qui faisaient de la musique et qui s'éclataient. Et je me disais, mais merde, moi, j'aimerais réussir aussi à faire de la musique. Et en fait, voilà, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais essayé avec un Melodica. Je sais pas si vous voyez, c'est un clavier où on souffle dedans et c'est un clavier, quoi. Voilà, c'est un instrument un peu étrange, mais ça m'avait pas spécialement plu. J'avais à peine commencé, quoi. Et ensuite, je suis tombé sur le didgeridoo, et là, j'ai pu commencer à faire de la musique, parce qu'il n'y a pas besoin de connaissances musicales. Bref, vous connaissez tous les avantages du didgeridoo. C'est un instrument qui est intuitif, et on se laisse assez porter, et on va voir que c'est à leur revers de la médaille, pour justement aller ensuite concrétiser au niveau de la musique. Donc, tous ces musiciens qui jouent du didgeridoo et qui ont appris sont, comme dans mon cas, autodidacte, donc on n'a pas de formation musicale, ou peu de formation musicale, et donc on a quelques carences et lacunes là-dedans. Faut vraiment se le dire, on a quelques carences et lacunes. C'est pas le tout de faire un rythme en 4 temps, c'est pas le tout de faire un album, c'est pas le tout en fait de créer quelque chose. Aujourd'hui, avec tous les logiciels qu'on a, c'est assez facile, entre guillemets, de sortir un morceau et de sortir un album, de le faire vraiment très bien, c'est là que ça devient délicat. Donc, si on reprend l'histoire du DJ, depuis le début des années 2000, il y a eu une vraie explosion, surtout en France, en Europe et particulièrement en France. Il y a eu une grosse évolution technique. Cette grosse évolution technique, elle est arrivée avec Internet, avec les connexions des joueurs et joueuses. Il y a eu vraiment une dynamique qui s'est créée, des échanges, des recherches. Chacun a fait un peu son boulot là-dessus et il y a plein de choses qui sont dessinées. Et il y a eu une profusion de techniques avec différents styles. Et aujourd'hui, on arrive, à mon sens, à la période où toute la technique, pas toute évidemment, mais que quand même une grosse partie de la technique a été découverte au didgeridoo contemporain, dans le didgeridoo contemporain, et que maintenant, cette technique-là, faut savoir quoi en faire. Bien sûr, il y a encore d'autres pans à explorer, tout n'est pas encore tout à fait, surtout au niveau de la voix, il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, on peut dire qu'une grosse partie de la technique a été développée, et après, ça va s'affiner avec le temps. Quand on voit l'histoire de la batterie, ça a commencé, alors j'ai regardé avant de faire le podcast pour voir un peu si je pouvais faire un parallèle, c'est très délicat de faire un parallèle entre didgeridoo nous. Et l'histoire de la batterie, la batterie, elle a commencé officiellement en 1906 et ça a tout le temps évolué énormément. Mais en 1906, il y avait déjà la base de ce qui ferait une batterie moderne. Voilà. Et bien sûr, après, ça s'affine. Donc, je ne dis pas que la technique va cesser d'avancer, mais simplement, elle va s'affiner avec le temps. Mais tout ça pour dire que quand j'ai commencé le didgeridoo, le didge m'ennuyait déjà. Il y avait certains joueurs qui m'accrochaient un peu, mais sinon, la plupart du temps, je trouvais ça chiant. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment on peut avoir un son aussi mauvais? Et c'est ce qui me motivait à monter sur scène, à me dire, purée, un jour, je serai sur scène pour montrer qu'on peut avoir un son plus joli et plus fin. C'était certes un peu prétentieux. C'était la prétention et l'orgueil de la jeunesse. Quasiment, quoi, 18-19 ans après, je vois un peu plus, quoi, je vois différemment, bien sûr, les choses. Et je vois que ça demande beaucoup de travail et que c'est pas si évident que ça. Mais par contre, j'ai toujours ce même truc où je m'ennuie. C'est-à-dire que la technique du didgeridoo a évolué. Les techniques sont devenues impressionnantes et beaucoup de gens vous diront quand ils voient quand ils entendent du didgeridoo qui est bien joué techniquement et qui est propre, il y en a plein qui diront ah ouais purée c'est impressionnant, mais on a l'impression que vous êtes plusieurs et tout ça, c'est impressionnant. En fait, c'est ça, c'est impressionnant. Mais est-ce que impressionnant, c'est de la musique? Est-ce que impressionnant, ça peut définir quelque chose qui nous touche et qui va vraiment parler au plus profond de notre être, ou en tout cas qui va déclencher des émotions fortes? Je suis pas sûr. Oui, ça, c'est du sensationnel, quoi. C'est super pour un one shot. Hop, ouais, wow, incroyable, purée, tout ce qu'il arrive à faire, et puis hop, on passe à autre chose. Parce qu'en fait, quand on veut écouter de la musique, on cherche pas forcément de l'impressionnant. Sauf si on est dans une recherche technique, qu'on veut rechercher telle ou telle technique, qu'on va écouter tel ou tel joueur, qu'on va écouter tel ou tel musicien, et ça c'est les geeks de la musique, c'est les jazzmen qui vont écouter les autres jazzmen, et puis ça va être du free jazz qui va partir dans tous les sens, ou c'est complètement hermétique à une grosse partie de la population, ça va être la musique modale ou toute la musique moderne contemporaine qui va faire qui parle à certaines personnes de la population, mais qui est assez hermétique et on a besoin d'être initié pour découvrir ça. Donc ça c'est une part, et pour le moment le didgeridoo se cantonne à une petite part comme ça. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que le didgeridoo, c'est un instrument vraiment atypique. C'est-à-dire que j'ai fait un parallèle avec la batterie très 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 rapidement tout à l'heure pour parler de l'évolution de la batterie, mais la batterie, c'est un instrument de percussion, c'est défini, il y a tout ce qu'il faut pour marquer les accentuations, c'est un instrument qui est adapté pour la musique moderne, et d'ailleurs, c'est pour ça que la batterie est arrivée. Le didgeridoo, on peut pas dire actuellement que ce soit adapté à la musique moderne, ou en tout cas, c'est complètement à part. C'est un instrument qui est harmonique, qui a une seule note, qu'on doit décortiquer pour sortir d'autres harmoniques. C'est un instrument qu'on pourrait classer plus proche de la percussion, mais qui peut faire une note de très longue, qui dure pendant plusieurs minutes, et à l'intérieur, on va aller créer du rythme. Donc ça laisse un bourdon tout le temps, ça veut dire que ça enferme un peu le morceau dans une tonalité, ou alors faut changer de didgeridoo. Bref, c'est un instrument qui est un peu spécial. Il y a la basse qui se répand tout le temps, et puis après il y a quand même au-dessus les harmoniques et entre les deux toutes les sons de respiration et toute la voix qui se trouve dans les médiums, et après il y a les harmoniques qui se retrouvent dans le spectre aigu du son, et puis la basse qui est tout le temps là, une fréquence bien précise. Ce qui fait que ben c'est pas si évident pour buffer comme ça avec d'autres musiciens et s'éclater un peu, ça va. Pour faire vraiment un set musical et qui soit digne de ce nom, ben là ça devient beaucoup plus difficile. Alors il y a aussi un autre argument, j'en discutais avec Jean-Yves Redor alias Woodslide quand j'étais à Nomadige, où justement il disait ouais mais didgeridoo il y a pas de voix quoi, c'est l'instrumental et ce qui touche les gens c'est la voix. Alors c'est vrai que la voix humaine on remplacera jamais cet instrument, c'est la voix depuis la nuit des temps, c'est l'instrument primaire par excellence et qui résonne à l'intérieur et qui vient toucher le cœur des gens très facilement, et puis en plus généralement il y a les paroles qui vont avec, qui donne un côté audible et compréhensif, et poétique et avec un message. Donc ça, évidemment, ça accroche une autre partie du cerveau et du coup, on peut suivre plus facilement la musique. Mais j'ai réalisé en écoutant une émission sur France Culture qui s'appelle Soft Power, qui est le dimanche soir sur France Culture, qui est assez chouette, je trouve. Parfois, je tombe dessus. En fait, il parlait de la production musicale de l'électro en France. Et là, il donnait des chiffres où tu te dis, ah oui, mais non, en fait, beaucoup de monde écoute de l'électro, et l'électro, il y a des samples de voix parfois, tout ça, mais la plupart de l'électro, il n'y a pas de voix. C'est un univers musical dans lequel on se laisse emporter, on se laisse porter. Et donc, ça m'a donné grand espoir pour le didgeridoo, parce qu'en fait, je me suis dit, mais non, en fait, la voix, c'est un faux problème, entre guillemets, c'est une fausse excuse. C'est simplement qu'on n'a pas trouvé comment réussir à faire de la musique, vraiment de la musique avec le didgeridoo. Et quand je dis de la musique, c'est que ça puisse intéresser pas juste les initiés ou pas juste des personnes qui sont en recherche de tribalisme ou de musique, de musique trad et des choses comme ça. Ça peut intéresser vraiment des gens qui n'ont jamais entendu du didgeridoo. C'est un vrai défi, mais c'est possible. Alors, quelles seraient les solutions si on voulait essayer de trouver un peu une manière de faire vraiment de la musique avec du didgeridoo? Je suis un peu radical dans ma manière d'apporter les choses, mais après, je me suis dit, ouais, c'est avec les réactions du podcast de la semaine dernière, c'est vrai que j'ai bien senti que j'étais un peu sur la réserve la semaine dernière, et je me dis, oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où t'es pas complètement sincère, on tombe dessus, quoi. Donc du coup, là, je parle un peu plus cash. Et bien sûr, c'est pas une attaque contre tout ce qui se fait actuellement dans le didgeridoo. Je fais partie de ce monde-là, et j'ai joué jeudi soir Nomadij, et j'ai pas été spécialement ravi de mon concert. J'ai trouvé l'acoustique un peu particulière, donc j'étais pas trop dedans. Bref, je ne fais pas encore de la musique comme je voudrais faire avec le didgeridoo, hein. Donc ça, c'est important que je précise, que je me mets dans le lot. Donc revenons à nos solutions potentielles, ou en tout cas des pistes de travail qu'il peut y avoir. La première chose, c'est de se mettre d'accord sur les bases musicales. Donc c'est ce que la plupart font quand même, les joueurs et joueuses qui s'investissent dans le didgeridoo commencent à le faire petit à petit. Ça, c'était pas tout le temps le cas. Il y en a encore qui pensent qu'ils peuvent s'en passer. C'est le métronome, tout le travail rythmique au métronome. Et ça, c'est vraiment important. J'avais écrit un article dans mes débuts de Wacademy, mon début de blog sur le didgeridoo, je vous le mettrai en lien, de l'importance de travailler le métronome. C'est-à-dire que la musique, c'est un langage commun, c'est cadré par le temps, et c'est la structure rythmique, c'est le cadre dans lequel on va pouvoir tous s'exprimer entre musiciens. Donc le métronome, ça permet de développer ça. Quant à ceux qui pensent qu'ils ont le tempo intérieur développé et qu'ils n'ont pas besoin de métronome, ben, je vous encourage à travailler au métronome pour voir si vous l'avez vraiment. C'est extrêmement rare d'avoir une rythmique pure et qui soit ultra stable à l'intérieur, à moins que vous ayez grandi avec de la musique autour de vous et que vous soyez bercé là-dedans. Et encore, je pourrais que vous conseiller de continuer ou de travailler au métronome. Parce qu'en fait, le métronome, ça va pas vous apprendre juste à travailler avec le temps, ça va vous apprendre aussi à travailler avec les accents. Où est-ce que je mets l'accent? Est-ce que je place l'accent sur le premier temps, sur le deuxième, troisième, le quatrième, cinquième, peu importe? Est-ce que je mets deux accentuations fortes? Est-ce que je joue à contre-temps? Bref, ça, c'est des choses qui s'apprennent petit à petit en pratiquant, mais qui sont essentielles. Et donc, commencer juste au métronome, c'est déjà très, très important. Donc ça, c'est la base de la musique, c'est le temps. Et après, une fois que vous êtes à l'aise, il sera toujours temps de vous émanciper du métronome et de pouvoir vous laisser vivre un peu plus le temps. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression de dire temps tout le temps. Dans un premier temps, essayez de développer ce discours rythmique intérieur. C'est vachement, vachement important. Une fois que vous avez fait ça, ou en parallèle, c'est de jouer avec d'autres musiciens. Évidemment, la rencontre avec d'autres musiciens ou musiciennes, le fait de partager la musique, ça fait quand même beaucoup progresser. D'en discuter même, pas forcément juste de jouer, mais de discuter, tout ça, d'essayer de comprendre, d'échanger là-dessus, c'est vraiment important. Ça me fait penser à une étude qui avait été faite sur la psychologie, ou je sais plus exactement, là, je pourrais pas citer mes sources, c'est vraiment un souvenir qui me revient comme ça. En fait, ils ont testé le QI ou l'intelligence du groupe, on va dire, je sais pas trop comment, ça me posait pas la question, mais en gros, ils ont isolé des hommes et ils ont isolé des femmes. Et ils se sont rendus compte que le groupe de femmes avait des résultats qui montraient que le groupe était plus intelligent que le groupe des hommes. Donc là, j'entends les femmes crier victoire, et puis les hommes être là, ouais, je sais pas trop. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'était pas que les hommes étaient plus idiots que les femmes, c'était simplement que les femmes écoutaient plus, échangeaient plus, et étaient plus dans la collaboration, ce qui fait que la synergie du groupe amenait à de meilleurs résultats. Avec la musique, c'est pareil, c'est d'essayer d'aller collaborer ou travailler avec d'autres musiciens. J'ai bon dos de dire ça, moi je joue en solo depuis quasiment le début, j'ai fait des collaborations. C'est délicat de collaborer, ça dépend un peu des profils. Il faut trouver son équilibre, moi je suis en train de le rechercher, c'est à chacun de trouver son équilibre, c'est pas forcément faire un groupe, travailler toutes les semaines, ça peut simplement être là, il y a quelqu'un qui joue, un de vos potes qui joue de la guitare comme ça pour le plaisir, ben, vous jouez un petit peu ensemble, ou vous discutez discuter un peu, mais en fait, comment ça se passe quand tu fais un morceau en do, ça veut dire quoi? Juste, c'est poser des questions, quoi. Donc ça, c'est se nourrir de la connaissance et de l'expérience des autres. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment important, je trouve, c'est que le didgeridoo, c'est un instrument rythmique, plus rythmique que mélodique. On pourrait dire que le rythme, c'est les attaques et les respirations qui gèrent ça. Quand on voit comment le didgeridoo a évolué, on voit que c'est blindé d'attaques et blindé de respirations. Il n'y a plus que ça dans le jeu du didgeridoo, c'est vraiment le rythme qui s'est développé jusqu'au beatbox, qui a squeezé le bourdon et qui est venu mettre des sons beatbox là-dedans. Et après, de l'autre côté, il y a la partie mélodique qui serait plus avec la voix, les harmoniques, des choses comme ça. Si on peut parler de mélodie, c'est pas vraiment mélodique, mais on va dire qu'on va l'associer à ça. Et ça, ça a été complètement mangé par le reste des attaques. Ça, c'est juste un constat qui peut, je trouve, être un peu dommage parce que ça peut... en fait, l'équilibre est un peu rompu. En musique, je vois l'équilibre rythmique, mélodique, comme l'équilibre yin-yang dans la pensée chinoise. Donc, tout le monde connaît le yin-yang. Hein, le yin, ça va être plutôt la douceur, la nuit, la patience, quelque chose de plutôt féminin, c'est rattaché au féminin. Le yang, c'est plutôt masculin. Ça va être l'action, ça va être le dynamisme, la journée, donc le soleil, le yin, la lune. Bon, voilà, toutes ces images-là, je trouve que la mélodie, elle serait plus yin. Ça amène quelque chose de... soit une mélancolie, soit de la poésie, soit du quelque chose d'aérien. Ça amène quelque chose qui flotte et qui nous emmène un peu. C'est de la poésie pour moi, la mélodie. Et le rythme, il va structurer, il va plutôt être dynamique et il va plutôt cadrer tout ça, amener potentiellement de la joie. La mélodie peut amener aussi de la joie, bien sûr, et les deux ensemble, ça fait une fusion qui est super. L'équilibre entre le yin et le yang, c'est vachement important. Et je pense que dans les morceaux actuels avec du didgeridoo, la mélodie est complètement laissée de côté. Même s'il y a un instrument mélodique, souvent, c'est un instrument... mélodique, mais qui va faire aussi de la rythmique. Et il n'y a pas de jolies choses mélodiques avec un didgeridoo, tout ça, quoi. Il y en a, bien sûr, je veux pas être... je suis un peu radical, mais... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a certainement quelque chose à faire. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui rame un peu entre cet équilibre entre yin et yang. Et quand on voit l'évolution de la musique, c'est pas que dans didgeridoo, moi, je trouve. Si on prend une toute petite partie de l'histoire de la musique, je suis pas du tout expert, pareil, en musicologie, en histoire de la musique. Mais si on prend une partie de la musique, l'histoire de la musique occidentale, quand on regarde la musique en arrière, il y avait tous les chants grégoriens, il y a eu toute la musique classique avec tous les courants de la musique classique, donc les différents courants classiques, baroques, romantiques, tout ça. Ça, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aurais bien trop peur de me tromper. Mais en gros, on voit que c'était quelque chose qui était fort porté sur la mélodie et sur l'harmonie. Donc, il y avait quelque chose comme ça qui était... quand on écoute de la musique classique, on entend, c'est très chargé en émotions. C'est vraiment, surtout dans le romantisme, on entend que c'est profond et que ça a la qualité de justement de cette charge émotionnelle et de ce sentiment, et puis à la fois ça peut être un peu lourd des fois, parce que ça peut être presque plombant. Je me souviens avoir écouté la cinquième de Mahler, je sais pas si vous voyez un peu cette symphonie. C'était dans une maison que j'avais achetée à la campagne autour de Dijon, qui était d'ailleurs une maison un peu flippante, et j'avais écouté la cinquième à minuit tout dans le noir et tout, j'avais rallumé les lumières, j'étais trop en flip parce que ça mettait une sacrée ambiance, quoi. Ça, c'était pour moi tout le côté yin, c'était à fond yin. Et puis petit à petit, il y a le rythme qui s'est développé à l'intérieur de tout ça. Il y a justement toute la batterie qui s'est développée, toute la musique contemporaine, moderne, le jazz qui est arrivé, le rock, tout ça. Mais je la fais vraiment courte. Mais la rythmique a commencé à prendre beaucoup plus de place jusqu'à arriver à la musique électro où on connaît la techno ou de la musique électro, de la deep house, ou je ne sais même pas quel nom employer dans tout ça. Je ne connais pas tout ce genre de trucs, mais où la rythmique est très, 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 très présente. Par contre, l'harmonie et la mélodie sont un peu cassées la gueule. Moi, de ce que je vois, c'est que... avant, c'était très mélodique et maintenant, on est arrivé à une phase où on est très rythmique. Et donc, dans le didgeridoo, pour en revenir au didgeridoo, je pense que c'est ça qui pourrait faire du bien, en fait. C'est de réussir à retrouver un équilibre entre mélodie et harmonie. Et que mélodie, pardon, et rythmique. Et l'harmonie aussi, bien sûr, derrière. Et après, si on rentre encore plus en profondeur, c'est rechercher son expression, rechercher son discours. Pour toutes les joueuses et joueurs de didgeridoo, qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Je pose la question à tout le monde, mais même tous les musiciens. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi, en fait? C'est quoi notre discours? C'est quoi l'intention qu'il y a derrière? dans ces débats-là, il y a ce truc de oui, l'intention qui est importante, tout ça, c'est le plus important, et la technique, on s'en fout. Ou alors, sinon, il y a des techniciens qui vont dire ouais, c'est vraiment important de pousser la technique. Bref, une technique trop poussée, c'est vide, c'est sec, c'est aride, il n'y a pas de cœur. Et puis, trop d'intention, trop de cœur, eh ben, il n'y a pas de structure, ça plane complètement. Et en fait, c'est chiant à écouter aussi. Et les deux sont chiants à écouter. Et en fait, c'est de réussir à retrouver les deux, en fait. Bosser sa technique, bosser sa structure, et puis, et vraiment développer ses connaissances musicales et son expérience musicale. Et puis de l'autre côté, ne pas oublier le discours et ne pas oublier ce qu'on a raconté avec ses tripes, en quoi on veut participer au monde avec notre musique, que ce soit pour monter sur scène, faire un album ou jouer chez soi, en fait, peu importe, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui nous anime. Donc au passage, je remercie, pour ne pas les citer, David Defoy qui fait les djeridous en bambou et puis le corn bass, et puis William Bell qui joue dans Pulse and Wood, c'est eux deux qui m'ont envoyé un message privé. N'hésitez pas, vous pouvez poster ça en public, il n'y a pas de problème, j'assume, et ça me fait des feedbacks. Quand la critique est juste, c'est bien, ça me réveille aussi, et puis ça me permet de réajuster un peu mon tir, donc c'est toujours bien d'avoir vos feedbacks. Donc si vous voulez faire un commentaire, n'hésitez pas, partagez votre expérience par rapport au didgeridoo. Est-ce que vous écoutez encore du didgeridoo? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît encore? Est-ce que ça vous plaisait avant? Est-ce que ça vous plaît plus? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que vous aimez comment le didgeridoo a évolué? N'hésitez pas à partager votre expérience de manière cash et bien sûr bienveillante. Moi, de mon côté, je commence à réfléchir à faire une publication tous les jeudis, mais qui ne soit pas forcément des podcasts, peut-être un article, peut-être une vidéo, mais qu'à chaque fois, chaque jeudi, il y ait quelque chose de nouveau. Là, c'est bon, tous les cartons sont quasiment déballés, donc je vais pouvoir enfin un peu me poser. Par contre, après, j'ai pas mal de boulot sur la formation que je vais lancer en septembre-octobre, plus sur le site de Wacademy. Il y a quelques soucis techniques qui sont un peu compliqués à gérer par rapport à l'application mobile qui devrait sortir. Bref, il y a des trucs un peu de en mode casquette chef d'entreprise qui font que j'apprends un peu sur le tas, et bon, c'est un bon apprentissage, mais c'est assez délicat. Je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode, et pour ceux qui vont au Festival du Rêve de l'Aborigène, bon festival. Salut.